Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichrona Livracha. La question de Dan David est écrite Kashay Zivugan Kekirat Yamsouf. Lorsque Dieu veut unir deux personnes, c'est-à-dire faire trouver l'âme sœur ou l'âme frère pour la sœur, c'est aussi dur pour Dieu que Kirat Yamsouf, que la traversée de la mer rouge. Pourquoi ? Bon, il y a beaucoup d'explications à cela. Alors d'abord à la source. La source se trouve dans Traité Sota, la première page. Là-bas, il est écrit ainsi. Il est écrit, effectivement, d'un côté, il y a cette parole de Chazal qui dit que l'union, donc pour se trouver l'un l'autre, c'est aussi dur que traverser la mer rouge, que d'ouvrir la mer, c'est ça. Et la Gemara pose la question, comment ça se fait ? C'est marqué tout à fait le contraire. C'est marqué que 40 jours avant la naissance d'une personne, dans le ciel, une voix sort et dit, la fille d'un tel sera pour un tel. Un tel, 40 jours avant qu'il y ait sa conception, son âme se prépare à venir déjà sur terre. Déjà, on fixe qui sera son mazal. La fille d'un tel pour un tel. Donc, ce n'est pas du tout difficile. C'est très facile. D'un côté, on voit que c'est facile. D'un côté, on voit que c'est difficile. Demande à la Gemara, contradiction. On prend la Gemara, il n'y a pas de contradiction. On parle de choses différentes. Ha, bezibouk roshon, ha, bezibouk sheni. La première phrase qui dit que 40 jours avant la conception, la fille d'un tel pour un tel, elle parle de la première union qu'il y a eu entre eux. C'est quoi le premier mariage ? Ou ça, c'est d'après le mazal, ça a déjà été fixé et ça se fait sans peine. Mais si le couple n'a pas tenu le coup, il a divorcé, maintenant il faut se remarier et retrouver un autre mazal avec qui ça va aller, là c'est dur comme la traversée de la mer rouge.
Pourquoi c'est dur ?
Il faut trouver, c'est pas facile. Divorcer avec des enfants, machin, tout ça.
C'est pas facile.
C'est dur aussi. C'est dur aussi. Pourquoi divorcer ? C'est pas très facile. Attends. Ça, c'est le sens simple. Vient Rabbi Noari, il dit il faut pas comprendre les paroles de la Torah, rien que dans le sens simple, il y a un sens profond à chaque chose. Et dévoile une chose beaucoup plus. Comment dire cela ? Beaucoup plus compréhensible. Nous savons tous que nous sommes des réincarnés. Un temps, il y avait de nouvelles âmes qui venaient. Aujourd'hui, c'est très rare. Aujourd'hui, la majorité immense des Juifs qui viennent sur Terre sont réincarnés. Zivug Rishon, la première union, on parle de l'union lors de leur première incarnation sur Terre. Où là, ils n'ont pas de péché. Le gentil jeune homme et la gentille jeune fille, normalement, à leur âge jeune, ils n'ont pas encore trop de péché. Donc, il n'y a pas de Midat Hadin, il n'y a pas dans le ciel l'accusateur à cause du péché qui vient et qui dit non, ils ne méritent pas. Ils sont propres, ils sont bien, ils sont gentils, hop, ils marient facilement. Ils sortent en chidour, tac, tac, ils trouvent tout de suite, premier, deuxième chidour, sans problème. Mais ils font des péchés dans leur vie. Et ils doivent à cause de ça revenir sur terre pour réparer. Ils reviennent les deux sur terre. Et peut-être ils doivent se remarier, ou bien ensemble, ou bien pas ensemble, peu importe. Mais quand ils sont maintenant sur le marché des chidourim, ils veulent trouver leur mazal. Et c'est dur pour eux de vivre, l'homme sans femme et la femme sans homme. Il dit, mais mon cher ami, lui dit l'opposition, l'accusation en haut, elle dit, mon cher ami, mais le Gilgoul passé, toi, on t'a tout donné, t'as péché. T'es avec des filles comme ci, t'es avec des garçons comme ça, alors que t'avais tout pour être heureux ou heureuse. Maintenant, tu vas peiner, tu vas attendre, et tu vas te retenir, et tu auras des occasions de pécher, tu ne pécheras pas. Et comme ça, tu répareras, et en fin de compte, quand tu auras réparé tout ce que tu as fait comme bêtise dans ta ou tes réincarnations, des fois, ils viennent 30 fois réincarner, il n'a pas compris le type, hein. Alors, quand tu auras tout réparé, on t'amènera ton mazal. Et c'est dur comme qu'il y a des hameçons, c'est dur comme tracer la mer rouge, réparer les péchés, parce que c'est la même envie, c'est le même qui revient. Donc quand, à 20 ans, tu as rencontré, bon, je l'ai fait souvent, ça je vous raconte, tu étais, il y a déjà 800 ans, tu es venu une première fois, tu as été incarné. Où ça ? À Carcassonne. Et tu t'appelais Moïchi Tristan. Et tout d'un coup, tu as vu Ise. Marie Ise. Qui n'est pas juive. C'est une carcassonienne. Mignonne. Rachid explique à la fin du traité Gittin. Rachid vivait en 1100 et quelques, d'accord ? Là-bas, à la fin du traité Gittin, on parle des femmes qui ne sont pas habillées comme il faut et que ce n'est pas bien. Alors Rachid dit, comme chez nous, en Édom, en Europe, il habitait en Alsace, à Troyes, où les femmes vont de façon poutsa, de façon dépravée. C'est quoi dépravée ? C'était ouvert ici, sous les bras. Là, il y a une petite ouverture comme ça. Ça, c'est le dépravé du temps de Rachid. Là, c'est bien fermé, tout était jusqu'en bas, tout était bien comme il faut bien. Là, c'était ouvert. Dépravé. Alors, t'as vu Ise, t'as vu sous son bras, et t'es tombé dans le panneau avec elle, Moïchi, Tristan et Ise, Oive. Bon, tu viens au Lamaba, on te dit, mon cher ami, recalé. Tu vas avec Ise, c'est pas pour les bons juifs, faites-moi aller avec Myriam, pas avec Ise. Tu reviens en Gilgoul, au Maroc, Dan David, Bouzaglo. Dan David Bouzaglo, il se balade dans les rues de Marrakech, tout ce qu'il voit, Fatima, Oyeve, Fatima. C'est qui Fatima ? C'est Ise. C'est Marie Ise qui est aussi revenue maintenant pour faire tomber de nouveau Dan David. Et dès qu'il la voit, clic. Pourquoi il clique ? Ben évidemment, déjà, la fois passée, il a péché avec elle. Donc maintenant, il est dans le collimateur. Ça fait clic tout de suite. Je ne sais pas, je l'ai vu, ça m'a fait... On s'est vu les deux, tac, le regard. Eh bien, gros bêta. Je sens que c'est elle, d'accord ? Tu sens que c'est elle. Évidemment, tu as péché un guilgoul entier avec elle. Bien sûr que tu sens que c'est elle. C'est un gros yitzhara. Éloigne-toi. Non, je suis attiré. Éloigne-toi. Non, je suis attiré. Fuis-la. Non. Tu retournes dans le panneau. Et tu reviens là-bas, et mon cher ami, t'as pas compris le piège, Fatima, c'était Ise. Allez, on te renvoie. New York. John Fisher. John Fisher. Il va dans la rue, tout ce qu'il veut, elle lui fait avec les cheveux blancs comme ça. Jennifer. Aïe, 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 aïe. C'est Fatima qui est revenue en Jennifer et il retombe dans le panneau. Aïe, 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 je fais en cours 30 fois. Sénégalienne, mauritanienne, marocaine, algérienne, tunisienne, égyptienne, israélienne, libanaise, syrienne, irakienne, turque, slovaque, russe, allemande, française, italienne, corse, sicilienne, toutes les affaires. Il revient pour la 30e fois au Lamaba, on lui dit, mon cher ami, tu veux quoi maintenant, une chinoise ? Il dit, laissez-moi encore une chance, allez. Il revient à Paris. Il les voit toutes maintenant. La sicilienne, la corse, tout ça, mais chacune. Il dit, non, il fait tchoua, Baruch HaShem. Ok, donnez-moi mon zivouk, c'était Myriam, celle de Roman 1200. Elle est là. Mais dans le ciel, on dit, mon cher ami, tu vas le voir comme ça, tu dois réparer. Alors il attend, et ça ne vient pas. Et puis tout à coup, la Sicilienne lui envoie un SMS, un scud. Aïe, 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 c'est dur. Il se retient, bravo, maintenant la Corse, un autre scud, boum. Maintenant la Slovaque, boum, toutes. Et il se retient, à la fin, le roi Myriam. Mais c'est dur comme traverser la mer Rouge.
Attends, tout, de réparer tout avant d'avoir son zéoui.
Je ne sais pas s'il va tout réparer, mais ce n'est pas facile. Non, mais tout Dieu y juge. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est marqué, c'est la raison pour laquelle ça empêche, parce que les péchés, qui vous le passez, empêchent. J'ai fait des péchés, comme ça c'est marqué, il y a des péchés surtout au niveau sexuel, et avec, justement avec ce type de fille. Ça peut aussi autre chose. Il a fait d'autres péchés, et à cause de ça, ça peut empêcher aussi.
C'est-à-dire que quand quelqu'un qui serait au jour d'aujourd'hui, dans tous les cas, c'est son vrai zivouk. Puisque s'il n'y arrive pas et qu'il se marie pour la première fois, même si c'est après sans zivouk, après, donc c'est son vrai zivouk. Parce que si Hachem lui a donné un mariage, il va réparer.
J'ai j'ai mal expliqué. Parce que maintenant, quand tu me poses la question, ça me rappelle que ma Gemara, elle dit que ce zivou, il est caché comme sous la mer rouge parce qu'on le marie d'après les fimas, c'est-à-dire d'après ses actions. D'après ses actions. Ça veut dire que. Ça veut dire beaucoup de choses. D'après ses actions, d'abord, on vérifie comment est-ce qu'il a réparé les actions des péchés qu'il a fait dans le Gilgoul passé, la réincarnation passée. Deuxièmement, c'est pas toujours que son conjoint lui correspond. Parce que si elle, maintenant, lui a fait tchouva, ok. Mais elle, maintenant, elle est restée la même. Elle va en boîte, elle fréquente les Corses, les Siciliens, les machins, etc. On ne peut pas les marier ensemble. Vous trouvez maintenant un remplaçant, une remplaçante, qui sera sa femme aussi bien. Mais ce n'est pas celle du zivoug initial. Parce que des, hein?
Ça change quoi, entre le zivoug initial et
le zivoug initial, ça va plus facilement d'habitude. Si maintenant, le zivoug initial n'est pas là, ou il ne peut pas, parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas au niveau de se marier avec. Alors, il faut trouver une autre à la place.
J'ai avant, quand c'était au cas du Rézibou, il n'y avait pas de problème de Shambait.
Le premier? Non, pas de problème de Shambait. Le premier, les deux étaient ensemble, les deux sont nés dans des circonstances qui font que c'est tout pour se rencontrer facilement.
Mais il y a quand même le problème de Shambait.
Alors, Shambait, ils sont rencontrés, tout allait bien. Maintenant, quand ils étaient mariés, ils ont fait des péchés, je sais pas, ils n'ont pas fait la nida, des trucs, d'accord, ils doivent réparer. Quand vous maintenant réparé, il y a deux choses qui empêchent que ça ne tourne rond. Les péchés eux-mêmes. On te dit, tu vas attendre maintenant. Deuxièmement aussi, pour retrouver la même personne, il faut que la même personne soit aussi dans la même configuration que moi-même. C'est-à-dire que si moi maintenant je suis en train de réparer mes péchés, elle aussi, il faut qu'elle répare. Et c'est pas forcé. Elle peut ne pas réparer, moi oui, ou le contraire.
Comment je suis puni par son comportement, elle?
T'es pas puni, alors Dieu te trouve maintenant un autre. Mais il faut le trouver, l'autre. Il faut le trouver, l'autre. Et des fois, dit le Stipler, des fois on te l'amène. Et tu veux pas. Surtout aujourd'hui en France. Où les garçons, et les filles aussi, mais plus les garçons, sont habitués à voir des top modèles sur les affiches qui n'existent pas. Parce qu'on a pris la photo de la top modèle, après on l'a arrangée sur ordinateur, cette femme n'existe pas. Mais il veut une comme ça. Elle n'est pas exactement elle, je suis prêt à faire un rabais. Mais elle n'existe pas, d'accord? Donc c'est un rabais de 20%, tu tombes dans le top mondial qui existe. Il faut le trouver. Puis qu'il soit super religieux, avec des bonnes midotes, avec de l'argent, et en plus top modèle mondial en snihout. Faut y aller, hein? Et les femmes aussi. Le top modèle, mais qu'il soit un super grand lamdan, et un grand irishamay, mais à la fois beau, à la fois riche, à la fois sympathique, à la fois... Vas-y, faut attendre. Et ils attendent, comme ça, 10 000 d'un côté, 10 000 de l'autre. Il se rend compte, non, ça va pas, tu ne ressens pas à mon top modèle. Je fais déjà pas mal de rabais, j'en peux plus. Le Stipler est dit, les gens sont trop gavtanim, ils sont trop fiers. Alors des fois, ils voient le zivouk passer sous le nez. Alors c'est pas dire que c'est fini, il y aura un autre à la place, mais il faut attendre, il faut ramer.
C'est dire quoi, il y aura un autre à la place?
Je te dis, c'est très rare qu'on ait aujourd'hui dans nos réincarnations qu'on trouve le vrai zivouk qui nous bat, le original.
Comment on voit ces genres de personnes-là qui ont trouvé leur unique original zivouk?
Alors, il n'y a absolument aucune incidence à savoir si c'est notre zivouk initial ou pas, notre mazal, notre femme destinée ou âme-sœur destinée ou âme-frère destinée initiale. Ça n'a aucune incidence. Nous, sur le terrain, on doit regarder maintenant, est-ce que cette femme, elle correspond aux critères intelligents de choix d'un conjoint qu'il me faut. C'est tout. Qui sont le niveau de religiosité? On est au même niveau. On a les mêmes ambitions. Qu'on ait une bonne chimie entre nous, elle est essentielle des bonnes midotes. Et ça, messieurs, il faut travailler. Il faut apprendre à se lever le matin. Les femmes ne comprennent pas, c'est quoi un mari qui ne se lève pas? Alors la majorité des maris ne se lèvent pas. Il faut savoir, il y a une maladie masculine, c'est dur de se lever le matin. Il y a des femmes comme ça, c'est très rare. Les hommes sont paresseux de nature, d'accord? Ils n'arrivent pas à se lever le matin. Une femme qui n'a pas se lever de sœur, elle ne comprend pas. Il n'y a pas la prière. Comment ça, quelle heure commence la prière? 7h30. Il est 7h30. Tu es dans ton lit. Elle ne comprend pas. Alors on leur fait des cours avant le mariage. On dit c'est normal. Bon, mais dans la tête, ça travaille. Pas normal. Et puis monsieur est un grand égoïste. Et madame aussi, les deux ne sont pas prêts à s'écraser. 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 Oui, encore, toujours, supplémentairement, absolument, toujours.
Comment c'est la limite, non ?
Hein ? Pas de limite.
Même si quand vous dites s'écraser, c'est au niveau estomacal, au niveau orgueil.
Oui.
La femme, elle ne va pas voir ça forcément, elle va profiter de ce pouvoir-là.
Attention, alors, c'est bien que tu poses la question. Quand je dis écraser, ce n'est pas dire que je dis oui à tout ce qu'elle dit.
Mais elle ne va pas le discerner.
Attends, écoute bien ce que je dis. Écraser signifie maintenant, mes décisions ne sont pas faites en fonction de mon ego, mais en fonction de la justice, de ce qui est juste de faire. Et très souvent, trop souvent, dans le couple ou dans toute relation humaine, je ne suis pas motivé, mu, mes décisions ne sont pas motivées par ce qui est juste de faire, mais parce que j'ai envie de faire, par ce que j'ai envie de faire. On va dire maintenant, allez, prenons un exemple. On est marié, on a un petit enfant de 6 mois, il fait les dents. Il pleure la nuit. Il a déjà pleuré pendant une heure. Madame a été, de 1h du matin à 2h du matin, lui faire avec le berceau. À 2h30, rebelote. Il se met de nouveau à pleurer. Elle lui dit, vas-y. Il lui dit, mais je serai toute la journée. Ben, moi aussi. Alors, l'homme égoïste dira non. L'homme juste dira, bien sûr. Aucune raison que ma femme passe une nuit blanche et moi à l'aise. Aucune raison. Aucune raison. C'est un exemple. Mais quand t'es dans ton lit à 2h30, aïe aïe aïe, combien c'est facile de trouver maintenant une bonne excuse que demain t'as un rendez-vous important, ou bien ton rabot, t'as pas content, ou n'importe quoi. Et elle y va à ta place. C'est un exemple parmi des milliers d'autres exemples. Elle veut la fenêtre ouverte, toi tu veux pas la fenêtre ouverte. Ou la justice maintenant, pas de justice ici. Qui va s'écraser envers l'autre ? Tu veux un Shabbat à la maison, elle veut un Shabbat chez sa mère. Qu'est-ce qu'on fait ?
On s'écrase pas.
Hein ?
On s'écrase pas. Non, non.
Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce que j'ai envie ? Elle fait un truc qui t'a énervé. Tu la remarques tout de suite avec des nerfs. Ou bien tu t'écrases et tu la feras dans 2 jours. Faut faire la remarque. Et dans 2 jours, très gentiment, très sympathiquement, sans nerfs.
C'est pas mal perçu, ça.
C'est ça, le travail. Hein?
C'est pas mal perçu, ça aussi, de se dire, tiens, mon mari, il a gardé ça enfoui.
Non, mais si le mari garde ça enfoui, quand il le sort, il est coléreux aussi. Il est, qu'on appelle ça, il bouillonne intérieurement avec le sourire. D'accord, il sourit, mais il bouille intérieurement. Ça va lui faire mal, donc ça ne va pas passer. Il doit se calmer. Et maintenant se dire, c'est comme si maintenant il y a Jules là, qui passe dans la rue, et j'ai mis ça, il est juif, j'ai mis ça maintenant, allez, j'ai vu qu'il fait un truc qui n'est pas bien, je vais le corriger, je vais faire la remarque. Comment tu vas le faire la remarque ? Tu n'as aucune tension intérieure. Tu lui fais un grand sourire. Jules, ça va, comment ça voulait te dire un petit truc comme ça ? Ça vaut la peine de faire un peu mieux ce truc. Même chose, tu le fais pour la mitzvah, d'accord ? Tu le fais propre, tu le fais sans nerf. C'est pas facile. Je veux dire encore plus. Tu arrives des fois à le faire. Tu le fais. Mais au milieu, la personne en face a tout de suite compris. Tu veux bien marquer le coup. D'accord ? Tu veux bien enfoncer le clou, comme on dit. Et tu redis, et tu redis bien. Et l'autre, là-bas, il n'en peut plus. Ça va, j'ai compris une fois, deux fois, trois fois. Là, tu commences déjà. L'autre, déjà, pour accepter, il doit être grande dame. D'accord ? Quand je dis maintenant, on se retient de faire les remarques, c'est beaucoup plus dur d'accepter les remarques. C'est bien plus dur d'accepter les remarques. Combien de milliers, 10 milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions, milliards de femmes se plaignent qu'on ne peut pas faire une remarque à monsieur ? Monsieur est parfait. Il n'est pas parfait, parfait. Il sait qu'il a aussi dit, mais on ne peut pas lui dire rien. 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 Il fait la tête. Il boude. Acceptez. Monsieur. Ouh là là. Il y a du travail. Pourquoi je suis arrivé à ça ? Non, je ne peux pas parler à ça.
C'est moi qui ai la question. Comment elle peut discerner, faire la différence entre l'estomacal...
Pour trouver maintenant son vivre, il faut des bonnes midotes. C'est l'essentiel. Sinon, on part en cacahuète. Tu peux être super riche, super Yerushalayim, super grand lambda, tout ce que tu veux comme qualité. T'as pas ça, t'as rien.
Mais la femme, elle ne voit pas. Elle va pas voir forcément qu'il est en train de se servir. Là, c'est automatique.
C'est très dur à voir les midotes.
Non, mais elle perçoit la femme.
Très dur.
Elle est sensible à ça quand même.
Ouais, elle perçoit pas le mariage.
Alors, on les marie pas les gens qui ont pas de midotes.
Hein?
On les marie pas les gens qui ont pas de midotes.
On les marie après on le divorce. on fait du shambait. On fait du shambait, mon cher ami. Combien de souffrances. Tu peux pas imaginer. Pas imaginer combien de gens souffrent et de quelles souffrances terribles.
C'est pas mieux d'être seul et mal accompagné ?
Oui, mais va dire ça à quelqu'un qui est pas mal. Puis enfin, elle voit quelqu'un, il est sympathique, il s'entend, il s'aime bien. Elle sent qu'il y a quelque chose. Tout ce que je dis maintenant, c'est dans les deux sens, elle et lui, d'accord ? Je dois avouer que je pense qu'il y a plus d'hommes tordus que de femmes tordues. Il semblerait. Mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a tordu partout, d'accord ? Maintenant, va dire au type... Te marie pas. Alors, il faut comprendre que le mariage aussi, c'est une école qui va nous forcer à faire ce travail de correction, parce qu'on va souffrir des deux. Et là, tant que je n'ai pas marié, je pouvais faire un peu ce que je veux. Maintenant, je suis obligé, sinon ma femme va pleurer, sinon elle va faire la tête, sinon elle va crier. Ça ne va pas. En face des enfants, ça devient la guerre. C'est terrible. Alors, c'est quelque part une école qui nous oblige à faire ce travail. Mais qui comprend ça? Qui est prêt à faire ce travail? Il faut travailler, il faut accepter, il faut... C'est dur. Alors ceux qui font le travail, ils ont des débuts difficiles, après ça va mieux. Mais combien n'arrivent pas? Alors qu'on va divorcer avec 4 enfants. On souffre, en silence. Terrible. C'est la grosse crise à cause d'une seule chose, l'égoïsme, l'ego. On ne veut pas travailler. Et je veux dire plus que cela. C'est pas que... Des fois, les gens sont propres, moi je suis prêt à travailler. Mais il n'a pas la méthode. Ça, c'est le moussard. Apprendre du moussard. Elle se rejoint deux questions qui ont été posées. Toi, la dernière cours, tu m'as dit, c'est quoi être rien, hein? Comment tu m'as dit, n'est-ce pas? Pourquoi c'est important de sentir rien? On n'est rien. Pourquoi dire qu'on n'est rien? Et toi, maintenant, qui a dit...
Si un homme se fait petit dans ce monde-ci...
Voilà, exactement. Ta deuxième question. Si quelqu'un, il est écrit, si quelqu'un maintenant se fait petit pour les paroles de Torah, dans ce monde-ci, alors on le fera grand dans le monde à venir. On le fera grand dans le monde à venir. Qui a une importance considérable, colossal, immense et beaucoup d'autres superlatifs, d'acquérir la source de toutes les bonnes midotes, la source de toutes les bonnes qualités, tous les traits de caractère positifs, s'appelle l'humilité. C'est quoi l'humilité? Pas se prendre pour quelqu'un. Zichrona livracha, humilité de mémoire bénie. Tout le contraire. La plus grande qualité. Qu'il puisse y avoir. Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus parfait qu'il ait jamais eu sur terre. La Torah dit à son propos une seule chose. Elle ne dit pas qu'il était un grand kadosh, jamais on voit ça, un grand homme saint. Jamais qu'il était un grand sage, jamais c'est écrit. Ni un grand gibor, ni un grand héros, ni un grand dirigeant. Qu'est-ce qu'on a encore comme qualité de grand? Tout ce que tu veux, on ne parle pas de ça. Une seule fois on dit. Une seule qualité. Rish Moshe, Anav, Mikol, Adam, Shah. Alpne à Adama. Car l'homme Moshe est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Humble. Savoir qu'on n'est rien. C'est ça l'humilité.
Malgré ça, il est divorcé avec sa femme.
Moshe a divorcé, je ne suis pas au courant.
Il est divorcé avec.
Non, simplement, vu qu'il est en contact sans cesse avec Dieu, il ne pouvait pas être en situation d'impureté à cause de relations avec sa femme, donc il a arrêté d'avoir des relations avec sa femme, c'est vrai. Mais. C'est l'âge de 80 ans, quand même. Entre 80 et 120 ans. Et encore, c'est un cas exceptionnel, sa sœur n'a pas compris, sa sœur qui était aussi une prophétesse, l'a critiqué, c'est un grand achonara qu'elle a fait. D'accord, Moshe Rabbeinu, ok, c'est pas comme les hommes normaux doivent tous se marier. Moshe, il dépassait quand même le commun des mortels. Qui a écrit « Car l'homme, Moshe, le plus humble des hommes qui est sur la terre », qui a écrit ça? Moshe. T'imagines, moi j'ai écrit maintenant Ron Chaya est l'homme le plus humble qu'il y a sur la terre. Et je mets partout maintenant des grandes pubs. Hein? Hein?
C'est savoir qui on est.
Ok, mais il a écrit. C'est un menteur. Alors, il faut que j'explique une chose très très importante. Savoir qu'on n'est rien, ça ne signifie pas que je suis un raté. Les gens qui disent « j'ai pas confiance en moi ». Pas bien, il faut avoir confiance en soi. Mais c'est quoi confiance en soi? C'est pas que je suis un type réussi. Non. Ça veut dire connaître que j'ai des qualités et tout le monde en a. avoir une confiance en Hachem, et surtout savoir qu'Hachem a confiance en moi. Hachem m'a créé avec toutes les qualités, avec tous les défauts, et tous les matins, il me redonne mon âme qui est une âme qui est divine, c'est une partie de Dieu, c'est colossal de colossal, infini, très, 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 très grand. Il me donne. Il donne ses bijoux, il donne les joyaux qu'il y a sur sa couronne. À Dieu lui-même, donne, c'est ça, l'âme. Il me la donne à moi, car il a confiance en moi. Et si je sais que Dieu a confiance en moi, et qu'il va réussir, alors j'ai confiance en moi. Mais, c'est quoi l'humilité ? C'est voir que toutes mes qualités, et j'en ai, d'abord il faut les connaître, toutes mes qualités, j'ai rien fait pour les avoir. J'ai rien fait, c'est pas moi, on m'a donné. Donc Moshe, étant le plus humble, peut écrire, je suis le plus humble. Parce que je comprends que toutes les qualités que j'ai, que je suis le plus grand des prophètes, le plus grand des sages, le plus grand des forts, le plus grand des jetés, moi, c'est pas grâce à moi, Dieu m'a tout donné. J'ai rien qui est de moi. Tout provient de Dieu. Donc je suis rien. Lorsque Bnei Israël vient se plaindre contre Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'ils disent ? Tinachnu ma. Qu'est-ce que nous sommes ? Chetalenu. Alors que vous ayez des plaintes contre nous. Qu'est-ce que nous sommes ? Chazal disent, Avraham a dit, Anochi afar va'efer, je suis de la poussière et de la cendre. Le roi David, il a dit, je suis Tolaat Veloish, un ver de terre et pas un être humain. Le top, c'est Moshe. Qu'est-ce que je suis ? Même pas de la terre, même pas de la cendre, même pas un ver de terre. Qu'est-ce que... Rien. Rien. Et c'est le plus juste. Je suis un être créé. Je suis un être créé. Je peux dire, c'est quelqu'un de bien. Je me suis créé moi-même. Il y a un. Pharaon. C'est marqué dans le prophète. Pharaon, il dit, « Liéori, à moi appartient le Nil, vani asitini. » Et moi, je me suis créé. Je me suis créé. Quelqu'un qui dit dans la rue, voilà, Adriel, il me dit... je me suis créé. Psychiatriquement atteint, d'accord, il se prend pour Dieu. Chaque homme moderne dit ça. Je me suis créé. Dire, je suis par moi-même. Par moi-même. C'est nous. Et vu que tu es par toi-même, donc tu es en concurrence avec l'autre, parce que l'autre, peut-être, il dépasse un peu. Il va me dépasser. Jalousie, concurrence, haine, lashon hara. C'est la sphère dans laquelle nous sommes, il ne faut pas rêver. Simplement, je veux expliquer que la base des bases, c'est ça. Maintenant, on travaille de milliards d'années, il ne faut jamais rêver qu'on arrivera à un millimètre de ce que était Moshe Rabbeinu. D'accord ? Où il est la Zaken, que jamais il se fâchait. Jamais. Il y a un concours, la Gemara raconte ça dans le traité Shabbat, page 30 et quelques, que deux Goïm, je crois que c'est deux Goïm. Bon, je ne sais pas si c'est deux Goïm ou deux Juifs. On pariait 400. Zouz, 400 euros à l'époque, que l'un a dit, je vais réussir à mettre Hillel en colère. Il vient le voir la veille de Shabbat, il est dans la douche. La veille de Shabbat, c'est la pression. Il a 40 000 choses à faire, on n'a pas le temps à perdre. Il vient dans la douche, il dit, Hillel est là, c'est le Gdolador Hillel. C'est son excellence, sa sainteté, Kvod Arav, le Rav Hillel, Shalita. Il rentre chez lui, il dit, comme si quelqu'un rentre chez le Rav Yosef, il dit, Obadia, il rentre comme ça, Hillel. Ouais, une seconde, je sors, je suis dans la douche. Il sort au milieu de la douche avec le savon, tout ça, il n'a pas fini, hein. Il n'a pas fini la douche. Il sort au milieu de sa douche, au milieu du shampoing, d'accord. Il met une robe de chambre, il dit, qu'est-ce que t'as ? J'ai une question très très importante. Bon, je t'écoute, mon fils, vas-y. Pourquoi les Chinois ont les yeux bridés ? Question très importante. Je vais te répondre, mon cher ami, parce que dans leur région, il y a des tempêtes de sable. Je ne sais pas si ce sont les Chinois, d'accord. Ça fait qu'ils ont les yeux un peu bridés comme ça. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Il reprend sa douche. Cinq minutes après, il est dans le deuxième shampoing, parce que deux fois. Toc, il est là, oui, qu'est-ce que c'est ? Voilà. J'arrive. Il sort de la douche, il met sa robe de chambre. Qu'est-ce que tu as, mon fils ? Oui, voilà, je veux le savoir, je n'ai pas compris très bien pourquoi les gens dans les airs là-bas, ils ont les pieds plats. Très bonne question, mon cher ami, très bonne question. Parce que dans la région, il y a beaucoup de marécages. Quand on a les pieds plats, comme ça fait qu'on flotte mieux, on s'enfonce moins bien. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Après, il reprend sa douche, maintenant, il commence le savon, il est, son copain, hein. On rentre, voilà, j'ai encore des questions. C'est Shabbat, dans un quart d'heure, je dois finir, je dois encore mettre la plata, tout, ouais, j'ai 40 000 choses à faire, c'est la pression monstre. J'ai une question super importante, quoi, oui, pourquoi dans ce pays encore un autre machin ? Ben, mon riz, il lui répond comme ça. Et, tu t'appelles Hillel? Oui, je m'appelle Hillel. Pourquoi? Ben, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens comme toi sur Terre. Pourquoi? C'est à cause de toi, j'ai perdu 400 euros. Je peux te mettre en colère, tu ne t'es pas mis en colère. C'est une puissance extraordinaire que rien. Il se sent rien. On peut marcher dessus, il accepte tout. C'est pas notre cas. Mais c'est ça que vend le judaïsme en numéro 1. Parce que si tu as ça, tu as tout. Tu as tout, tu as gagné tout. D'abord, tu as la Torah. C'est vrai que la Torah, c'est comme de haut, elle descend celui qui est bas. Celui qui est petit en dirait Torah, il sera grand dans la main bas. Tu n'es pas égoïste. Tu aimes les gens. Tu n'es pas vindicatif. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas coléreux. Tu as toutes les bonnes qualités du monde. C'est là, surtout des bonnes qualités, c'est ça. Tu n'as même pas de l'envie. Même les envies interdites, d'accord, ça provient aussi de l'ego. L'ego, l'ennemi numéro 1. L'humilité, c'est ce qui casse l'ego. Il faut travailler dans ce sens. C'est la clé numéro 1 pour la réussite du mariage. La clé numéro 1. Alors, je ne dis pas qu'on doit toujours dire oui à sa femme, la femme doit dire oui à son mari. Mais on doit bien discerner. Est-ce que c'est l'ego maintenant qui motive ma décision ou c'est la justice? Si maintenant, ce que je dis, c'est clair que c'est juste, c'est comme ça qu'il faut faire d'après la Torah, c'est comme ça, elle peut monter et descendre, rien n'y changera. Et idem dans l'autre sens, d'accord? Je fais toujours mari-femme, c'est tout est réciproque dans les deux sens. Mais quand c'est l'ego qui va décider, alors elle sent que c'est ton ego, hey, tu as un ego, moi aussi j'ai un ego, mon cher ami, et on commence la guerre. Oui, tu avais une question, David.
Comment qualifier alors l'effort enfin, attends, le fait que quelqu'un est coléreux, il va travailler toute sa vie, il va réussir à être super anable ou super gentil.
Très bien.
Comment qualifier ça?
Alors, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Est-ce que ça me revient? Il me revient un certain mérite. Pour, dans les cas où j'ai un libre choix, c'est moi qui choisis de faire le bien. Mais là aussi, d'abord, savoir que Dieu m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a donné une âme qui m'a poussé dans ce sens-là, j'ai été beaucoup aidé. Ensuite, admettons que j'ai un certain mérite, mais qui suis-je? Comment ça dire moi, je? Regarde d'où tu viens, d'où tu pars, quel être tellement fragile nous sommes, les défauts qu'on a. Alors ça travaille, ok, mais t'as combien de défauts? Et c'est pas toi, c'est les gens de ta famille, autour de toi, combien de péchés on a fait dans notre vie? Qui peut lever le nez? On attend ma chère pour notre HM.
Mais comment on qualifie ça? Le fait que quelqu'un il a fait un effort. Il était quelqu'un d'horrible, il a travaillé.
Fantastique. L'effort, c'est ce qui lui revient. C'est la seule chose qui lui revient.
Comment s'appelle
ça, sur le Tsara Agra. D'après l'effort, ainsi est le mérite. Parce que ce que je mérite vraiment, la seule chose que je mérite, c'est l'effort que j'ai fourni. C'est ça où moi j'ai intervenu. Je suis intervenu. On attend ma chère, j'ai commencé à dire maintenant. C'est quoi sa grande qualité? Anava, l'humilité. C'est ça sa grande qualité. Anav, c'est marqué humble, monté sur un âne. On n'a pas dit intelligent, on n'a pas dit fort, on n'a pas dit saint, on a dit humble. Humble. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui sur Terre. C'est la source de tous les problèmes. C'est l'humilité, on a tout gagné. J'en parle, j'en suis à des milliards d'années de lumière, mais au moins il faut en parler pour que les gens comprennent qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. On s'arrête ici. Baruch Adonai, l'Olam Amen V'Amen.